et le pessimisme ambiant, et si l'on plongeait dans un univers parallèle bienveillant.
Chantal Laureau.
François Morel, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de ce spectacle. J'ai des doutes que vous reprenez à la Scala de Paris jusqu'au 5 janvier. Vous vous emparez des textes de l'immense humoriste Raymond Devos, disparu en 2006, mais vous y apportez votre touche personnelle. Cela donne un spectacle réjouissant, poétique, drôle, enlevé, tendre et mélancolique à la fois, du vrai musical.
Ça a énervé le bon Dieu. Il n'y a qu'un créateur ici, c'est moi. Appelez-moi Devos.
Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons?
Et là, oui, ce que tout toi vois.
Et quoi, tout toi?
Il voulait faire l'amour, elle voulait faire la guerre. Total, elle a fini pucelle à Orléans.
François Morel, comment est née l'idée de ce spectacle? Vous attaquez à un monstre sacré comme Raymond Devos. C'était une prise de risque ou l'occasion de rêver, de ressusciter un humoriste qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui?
C'était d'abord une suggestion de Jeannine Rose, qui est productrice plutôt de spectacles de musique classique. Elle m'avait proposé en 2016 de rendre hommage à Raymond Devos au cours d'une lecture spectacle. Donc j'avais quelques jours pour répéter un spectacle avec Antoine Salaire. On a mis en musique certains textes, on s'est amusé à présenter ça un matin au Théâtre des Champs-Élysées à 11h. On s'est rendu compte que Devos était toujours d'une efficacité comique formidable. Et je pense que de moi-même, j'aurais jamais eu l'idée de faire un spectacle Devos s'il n'y avait pas eu cette suggestion. Je me suis rendu compte qu'on prenait tellement de plaisir à dire ces mots-là, à tellement faire plaisir aux gens sur quelque chose finalement qu'on croyait désuet, mais qui n'a pas vieilli, parce que ça fait toujours rire aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui. Donc c'était une belle suggestion, on est parti, on s'est dit, il faut en faire un vrai spectacle avec des vraies lumières, une vraie mise en scène.
Mais voilà, parce que vous ne vouliez pas tomber dans l'imitation ou la parodie.
Ouais, c'est-à-dire, c'était pas le propos. En fait, je me suis jamais dit que j'allais l'imiter. Le problème, c'est que je dîne souvent après le spectacle et qu'au fur et à mesure, je risque de ressembler de plus en plus à Raymond Devos physiquement. Mais à part ça, c'était pas le but de lui ressembler. Au contraire, Jeannine Rose avait fait la même suggestion il y a quelques années à Jean Rochefort, qui avait fait un très beau spectacle sur les textes de Fernand Reynaud. Ça s'appelait Heureux, et de ces textes prétendument comique, il avait fait un spectacle infiniment mélancolique, et c'était un bel hommage à tous les personnages de Fernand Reynaud qui étaient un peu écrasés par le système et la vie.
Alors pour que le rire fonctionne aussi, il faut du rythme. C'est pour cela que le spectacle est si musical.
J'ai l'impression que le rire, il doit être musical. Enfin, je m'en rends compte parce que quand je prends une seconde de trop avant de faire un effet ou trois secondes de retard, je fais un bide. Donc, c'est toujours très musical. C'est aussi par la surprise, la scansion des mots. Je sais pas, il y a une chose qui marche aussi dans le rythme des mots ensemble, quoi.
Et alors sur scène, il y a de la musique grâce à votre complice, pianiste et comédien, Antoine Salaire. Et vous aussi, vous vous y mettez quand même à certains instruments, même si vous regrettez de ne pas être musicien.
Oui, je me mets un petit peu au mélodica pour jouer plaisir d'amour. Mais enfin, je pense pas, j'ai pas des concerts en prévision au mélodica.
Pas encore.
Non.
Alors comment vous avez sélectionné les sketchs de Raymond Devos?
Bon, j'ai lu tout, j'ai revu des images un peu, puis je suis allé vers ce que j'aimais le plus, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais plutôt choisi des textes des années 60 et 70, peut-être même 50. Je trouvais qu'il y avait peut-être une naïveté dans ces textes-là, peut-être qu'il se perd un tout petit peu plus tard.
Monsieur l'agent, je m'excuse, il y a quatre rues, elles sont toutes les quatre en sens interdit. Il me dit, je sais, c'est une erreur. Eh bien, j'y dis alors pour sortir. Ben, il dit, vous pouvez pas. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et même dit, tourner avec les autres. Et j'ai dit, il tourne depuis combien de temps? Il me dit, là, ça fait plus d'un mois.
Sans interdit, Raymond Devos. Sans interdit fait partie de ses sketchs les plus connus, ce qui illustre peut-être le mieux cette logique, cet art du raisonnement poussé jusqu'à l'absurde qui faisait la spécificité de l'humoriste belge. Là, vous n'avez pas changé une virgule.
Si, je me rends compte que j'ai changé parce que je dis pas exactement la même chose, mais en fait je pense que lui il évoluait aussi, c'était pas dans du marbre en fait son spectacle, et il inventait aussi certains soirs, et j'ai l'impression qu'à chaque fois j'ai pris un texte qui était une version de ses sketchs à un moment donné, mais que lui-même faisait évoluer ses sketchs tout le temps.
Et vous aussi, est-ce que le spectacle est différent chaque soir?
Il est un petit
à la marge,
c'est-à-dire qu'il y a des moments où je respecte absolument l'écriture de Raymond Devos, et il y a des moments où je me laisse un peu plus de liberté, notamment dans les relations avec le pianiste, parce que je trouve que c'est du musical, c'est presque du cabaret, et on a besoin aussi d'une espèce de spontanéité. J'ai besoin de surprendre de temps en temps mon partenaire, que ce soit Antoine Salaire, que vous avez vu hier soir, ou Romain Lemire, que vous verrez la semaine prochaine quand
parce
vous reviendrez.
Parce que je vais revenir, bien sûr.
voilà, on a besoin aussi d'invention, de se surprendre, etc. Donc, Je n'invente pas à l'intérieur de... Il y a certains textes, évidemment, mon chien c'est quelqu'un, je vais pas bouger une virgule, mais il y a des textes où je prends simplement le principe, parce que parfois aussi je faisais des entrées de clown. C'était pas seulement un comique littéraire, c'était un comique qui jouait aussi avec tout ce que la scène du musical pouvait lui proposer, donc il était à la fois mime, musicien, et c'était un spectacle...
Un artiste complet.
Ouais. Et d'une grande générosité.
Alors, sans dessus-dessous, là, vous avez changé une virgule ou pas?
Je crois pas. Regardez le texte. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé dire par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire du dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui du dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement du dessus, le mien. Remarquez, moi, je céderais bien mon appartement, celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus, d'abord parce que je n'ai pas de sous, ensuite parce que au-dessus de l'appartement du dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait le locataire du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé dire à celui du dessous qu'il a vu sa femme bras dessus avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su parce que dans le dessous on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus, comme ils étaient tous les dessous et se sont tapés dessus, finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.
Bravo, c'est magique. Antoine Salaire, votre pianiste dont vous parliez tout à l'heure, raconte que lorsqu'il était petit et qu'il voyait Devos à la télévision, il lui faisait peur. Est-ce que vous aussi, Devos, vous impressionnait lorsque vous le voyez, par exemple, dans Le Grand Échiquier de Jacques Chancel?
Ah ben, j'étais un peu plus grand, moi. Donc,
vous aviez moins peur.
Je suis plus âgé qu'Antoine, donc quand je voyais Le Grand Échiquier, moi, je me couchais très tard et je regardais tout seul chez moi en bas alors que tout le monde était couché chez moi, et je ne perdais pas une minute de ces spectacles où on pouvait voir Georges Brassens, Raymond Devos et tous ces gens-là. Devos, non, me faisait pas peur, il m'impressionnait, mais je pense qu'il donnait sa vraie mesure sur une scène de musical, sur une scène de théâtre, et là où il m'a vraiment impressionné, c'est quand je l'ai vu au théâtre de Caen à la fin des années 70. Mais,
vous étiez étudiant à l'époque.
Ouais, mais je comprends que en gros plan, voir cet homme, on me l'a encore dit hier soir, des gens qui m'ont dit, ah bah, quand j'étais petite, Devos me faisait peur, il était transpirant, rouge, il parlait fort, et il me terrorisait, alors que c'était surtout un homme d'une grande générosité. C'était aussi une période où les spectacles n'étaient pas du tout faits pour la télévision. Quand on voyait les frères Jacques, par exemple, à la télé, peut-être que leur accoutrement paraissait un peu curieux. Quand on les voyait sur scène, c'était absolument magique.
Alors vous, quel souvenir vous gardez justement de ce premier spectacle de Devos à Caen? Vous avez été complètement ébloui.
Ébloui par la générosité du spectacle. C'était des spectacles qui étaient longs en plus, avec un entracte. Je me souviens que la première partie devait durer 1h30 et il y avait encore après l'entracte une heure de spectacle, quoi. Donc c'était vraiment copieux. Et c'est ça dont je me souviens surtout. C'était la générosité, c'était le plaisir d'être sur scène et le plaisir de faire du vrai musical, de nous entraîner dans un univers imaginaire et très poétique. Je trouve qu'on a trop tendance à le réduire à un monsieur qui fait des jeux de mots.
Oui, vous le dites souvent, hein, ça vous agace qu'on le réduise à un jongleur de mots.
C'est pas mais il était notamment jongleur de mots, mais pas seulement. Et quand il jonglait avec les mots, c'était toujours pour nous entraîner dans une histoire, souvent à base de malentendus. C'est parce qu'un mot a plusieurs sens que les gens comprennent des choses différentes et c'est le début d'une histoire.
Et il disait que ces jeux de mots n'étaient jamais gratuits.
Voilà. Ben oui, c'est ça.
Alors, vous l'avez rencontré, Raymond Devos ?
Un tout petit peu. J'avais participé à une émission de Stéphane Bern sur France Inter au début des années 2000. Le Fou du Roi. Et j'avais fait son portrait. Et sa femme, qui était productrice et qui se prénommait Françoise, m'avait appelé pour me dire « Raymond aimerait beaucoup que vous veniez faire ce texte-là à l'occasion de ses 80 ans sur France 2 ».
Antenne 2 à l'époque.
Antenne 2, vous croyez ?
Oui, je crois.
Au début des années 2000, je me posais la question. D'accord.
Eh bien, on va vous écouter, justement.
Ah bon ?
Saint-Pierre a fait les présentations. Dieu, Devos, Devos, Dieu. Un silence. Ça tombe bien, dit le bon Dieu, un ange passe. C'était extraordinaire, Dieu se prenait pour Devos. Comme l'ange est repassé dans l'autre sens, Devos s'a dit, pour faire un peu la conversation, ça doit être une drôle de vie qu'être ange. Dieu a dit, je vous assure, mon cher Devos, vous avez dit étrange. Moi, j'ai dit étrange, a dit Devos, comme c'est bizarre, mon Dieu, mais je vous croyais plus spirituel. Devos sentait bien qu'auprès du bon Dieu, il n'était pas en odeur de sainteté. Ça l'a énervé. Devos a dit à Dieu, « Je m'entends vous dire une chose, mon Dieu. Maintenant que je vous ai en face de moi, je crois plus beaucoup en vous. Tant que vous étiez dans l'imaginaire, j'avais foi en vous, mais si vous existez vraiment, alors il n'y a plus aucune raison de croire en vous. Je crois même que je commence à douter de vous. C'est la première fois que quelqu'un osait tenir tête à Dieu. » Je vous signale quand même que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Ah oui, d'accord, a dit Devos. Il y a une éternité, nous dans le spectacle, on essaie de faire une création tous les 2 ans. Peut-être, c'est pas vous qui avez inventé le monde. Non, a dit Devos, mais j'ai créé un univers.
François Morel, cette rencontre imaginaire entre Dieu et Devos sur le seuil du paradis ouvre aujourd'hui votre spectacle La Scala. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre, de vous réentendre ?
Je me dis que j'ai retravaillé un peu le texte, parce que je trouve que le texte est meilleur maintenant. Et puis, c'est pas un excellent souvenir, parce que, en fait, quand je l'avais enregistré, c'est-à-dire le soir où il y avait le véritable enregistrement avec les invités, etc. Moi, je n'étais pas libre parce que je jouais en dessous de Bordeaux. Mon spectacle qui s'appelait à l'époque Les Habits du Dimanche. Donc, j'avais pas pu être là en direct. Donc, j'étais venu enregistrer à Antenne 2, donc dans les studios, mais un peu tout seul. Et donc ça change tout. Donc, j'avais pas eu envie de le voir parce que je me disais, ça va pas être bien. Donc, je sens que les rires là sont un petit peu rajoutés, etc. Et j'aime mieux le contact que j'ai en vrai avec des vrais gens
tous les
dans
soirs,
une salle de théâtre.
À La Scala.
Radioscopie.
Raymond Devos.
Jacques Chancel. Raymond Devos, à quel moment l'absurde devient-il réalité ? Est-ce au moment où vous arrivez quelque part ? Parce que lorsque vous entrez, c'est déjà un moment de vérité.
Un moment de vérité pour qui ?
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
François Morel. Que je fais peur.
Je voulais dire par là que je fais peur. François Morel, pourquoi avez-vous eu envie de faire entendre dans votre spectacle la voix de Raymond Devos dans ces extraits de Radioscopie de Jacques Chancel? Est-ce que c'est votre Madeleine de Proust?
Oui, je crois, oui. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de spectacles que j'ai fait, je me suis dit, enfin vraiment c'est né dans l'enfance quoi, des souvenirs de rentrer après l'école rapidement, je finissais à 16h30, je prenais mon vélo et à 17h j'étais devant un café au lait à la maison et j'écoutais Radioscopie. Alors de temps en temps c'était des professeurs, des mathématiciens, ça m'échappait un peu, mais de temps en temps il y avait Raymond Devos et là je ne ratais pas une miette.
Qu'elle aime beaucoup la lecture, qu'elle est fragile et singulière, qu'elle rêverait d'aventure. On dit qu'elle a ses élégances, on dit qu'elle a de beaux cheveux, que ses yeux si bleus sont intenses, que son sourire est délicieux. Mais à chaque fois qu'elle entend ses hommages, ses compliments, une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas belle. On dit qu'elle est bonne copine, qu'elle aime rire et discuter, qu'elle hésite entre médecine et littérature appliquée. On dit qu'elle est intelligente, on dit ses mérites nombreux, que sa conversation enchante, que son regard est lumineux. À chaque fois qu'elle entend ses hommages, ses compliments, une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas belle.
Morane, pas belle, parole signée François Morel. Encore une corde à votre arc.
Et musique Antoine Salaire.
Ah, bah voilà, ouais. La boucle est bouclée. Ouais. C'est un bon souvenir, cette collaboration avec Morane.
Bah oui, c'était émouvant. Elle avait choisi deux chansons. Une autre chanson qui s'appelait Face B, qui était un hommage à Henri Salvador, qui est super bien orchestrée aussi. Et c'était une voix tellement, tellement émouvante, tellement belle. Ouais.
Et vous aimez écrire des chansons pour les autres?
J'adore ça.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, ça.
En plus, vous devez vous glisser dans la
peau
d'une femme, là,
écrire. Je pense que le fait de s'imaginer chanter par une femme, ça fait écrire des choses différentes. J'avais écrit tout un récital pour une chanteuse comédienne qui s'appelle Nora Krief. Et d'ailleurs, il y a des choses que j'ai gardées, comme ça, que j'ai chantées moi aussi par la suite, parce que mais c'est vrai que ça m'a fait écrire des choses que je n'aurais jamais osé écrire pour moi.
Alors je reviens à votre spectacle « J'ai des doutes » que vous jouez tous les soirs à la Scala de Paris. La salle est conquise. Est-ce que vous redoutiez un peu la réaction des fans absolus de Raymond Devos? Ou alors, quand on aime Devos, c'est logique d'aimer Morel?
Oh ben non, c'est pas logique. Enfin, c'est pas obligatoire en tout cas. Et puis, non, c'est pas obligatoire. Je crains pas tellement. Parce que je pense que chaque fois que vous faites quelque chose, de toute façon, il y a toute une partie des gens qui sont contre. Donc je pense pas tellement à eux. Moi j'essaie de le faire et j'essaie de le faire le plus honnêtement possible et le plus sincèrement possible, avec l'admiration réelle que je porte à cet artiste-là et l'envie de renouer aussi avec une certaine forme de spectacle que j'aime bien. Donc je pense qu'il y a une part aussi d'inconscience et de jeu. À chaque fois que je monte sur scène, je me dis j'essaie. Quand je me mets à chanter des chansons, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent aussi qu'est-ce qu'il lui prend, il est pas bien. Le déchien qui se prend poète.
Mais vous adorez ça chanter.
Mais j'adore. Moi, je fais. En fait, Moi, ma réplique du cinéma que je préfère, c'est Arletty, quand comment s'appelle le grand film Prévert, Carnet, rappelez-moi.
Ah, j'ai un trou moi aussi.
Ah, bon, enfin bon, je sais plus. Les Enfants du Paradis.
Hôtel du Nord.
Les Enfants du Paradis.
Les Enfants du Paradis,
ouais.
Ok.
Et le flic lui dit, vous êtes libre. Et Arletty répond, ça tombe bien, j'adore ça, la liberté. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau.
Et c'est vrai que c'est un qualificatif qu'on vous accole très très souvent. Libre.
Libre, bah, ça me va.
Bon. Et qu'est-ce que les textes de Vos ont d'intemporel selon vous?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a très peu de noms propres, par exemple. Il parle pas à l'époque, ou très peu, il parle pas beaucoup de Balladur, ou de Raymond Barre, ou de Valéry Giscard d'Estaing. Il parle de Dieu, il parle de l'au-delà, il parle du percepteur, il parle de sa femme. Enfin, c'est-à-dire que autant de sujets qui nous concernent encore aujourd'hui. Donc, à l'époque, moi, j'avais un peu aussi, j'avais d'autres idoles. J'adorais Bedos aussi, par exemple, qui avait tellement de charme quand il arrivait sur scène et une telle élégance dans l'insolence que j'adorais, que j'admirais. Mais c'est plus compliqué aujourd'hui, sûrement, de reprendre des textes de Bedos parce que c'est très marqué par son époque.
Et alors, on vous présente souvent comme le fils spirituel de Raymond Devos. Comment vous expliquez que vous soyez un peu le seul, alors que tant d'humoristes aujourd'hui se revendiquent justement de Guy Bedos, ou alors de Coluche, ou de Desproges?
Ouais, je sais pas. Moi, je vois pas tellement de parenté. Enfin, il y a une parenté sûrement, mais pas... Pas fils spirituel, ce serait exagéré, parce que je...
Héritier, ça vous parle?
Héritier, ouais, oui. Mais je suis aussi héritier de plein d'autres trucs, de Robert Lamoureux aussi, moi j'adore. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. J'adore ça. et puis Bedos aussi, et Desproges, j'ai lu Desproges. Et moi, je commençais ma vie d'étudiant après avoir écouté Le Tribunal des flagrants délires. Donc pour moi, ça m'a marqué aussi beaucoup. Je fais pas tellement d'opposition entre tous ces gens-là. Parce que je pense qu'en plus, par exemple, Desproges, il avait aussi une passion pour Raymond Devos. Enfin, et moi, je peux m'entendre avec des gens qui font des choses très différentes de moi, parce que je trouve que c'est justement l'intérêt de... Le rire, c'est quelque chose d'hyper singulier, de proche de soi. Enfin, qu'on arrive à atteindre ce qui nous fait rire, nous, et où on est le meilleur pour partager un moment délicieux, quoi, de rire et de fraternité, parce qu'il y a une sorte de fraternité dans une salle de théâtre quand on rit ensemble. Et ça, il faut trouver un peu sa façon à soi de pouvoir rire.
Mais vous revendiquez la bienveillance, la fraternité. Est-ce que l'humour qui clash, qui tacle, vous l'aimez aussi?
Moi, j'ai adoré vraiment Bedos, et je me souviens avoir vu Bedos en avril 81 à Bobino. C'était d'une violence extraordinaire et d'une drôlerie épatante, quoi. Mais moi, je pense que peut-être que moi-même, j'aurais pas été... Autant je peux être spectateur de ça, peut-être que j'aurais sûrement été beaucoup moins bon, enfin j'en suis sûr même, que lui, pour porter ce rire-là. Il y a quelqu'un aussi qui m'a extrêmement marqué, que j'ai admiré aussi beaucoup, c'est Zouk. Alors là, on dit que Devos est oublié, mais Zouk, elle est encore plus oubliée, alors qu'elle est toujours vivante et que c'est une femme qui a inventé une forme de spectacle absolument incroyable, où on savait jamais s'il fallait rire ou pleurer, où tous les sentiments étaient tellement forts. On fait une espèce de Barbara comique, c'est-à-dire qui se servait de sa propre existence pour en faire des spectacles d'une drôlerie, mais fascinante.
Alors la drôlerie de votre spectacle tient aussi à vos mimiques et à votre complicité avec Antoine Salaire et avec le public, que vous mettez à contribution dans un karaoké qui s'emballe.
Je hais des qu'elles soient de mur, qu'elles soient de mou. Je hais des murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou.
Je hais des haies et des mûriers qui s'emballent.
et ça va aller de plus en plus vite. Vous aimez ça, ce jeu avec la salle, jouer les chefs d'orchestre?
Ah oui, j'adore ça. Ce que j'adore faire en public, c'est essayer de voir jusqu'où je peux garder un silence le plus longtemps possible. J'adore ça. Et alors, donc, mais il ne faut pas aller non plus au-delà de la longueur nécessaire, parce que sinon, ça devient ennuyeux. Mais j'adore pouvoir... c'est une question de rythme, quoi, tout ça.
Oui, on en revient au rythme.
J'aime beaucoup jouer avec ça, oui.
Alors, François Morel, aujourd'hui, vous êtes comédien, chanteur, auteur, parolier et chroniqueur sur France Inter chaque vendredi. Et votre chronique du 21 septembre a beaucoup fait réagir. Vous y répondiez sans jamais le nommer à Éric Zemmour, qui avait osé dire à la chroniqueuse Absatou aussi que sa mère avait eu tort de ne pas lui donner un prénom bien français, qu'elle aurait dû s'appeler Corinne. Vous n'aimez pas tacler, mais là, vous l'avez fait à votre manière, avec subtilité.
Ibrahim Malouf. Marek Alter, Tristan Tzara, Marjane Satrapi, Vassili Kandinsky, Johan Sfar, Eduardo Manet, Konstantinos Gavras, dit Costa Gavras, Omar Sy, Zinedine Zidane, Zuguaru Fujita, Pablo Picasso, Fernando Arrabal, Amedeo Modigliani, Tahar Ben Jeloun, vive la France, vive la France. Vladimir Cosma.
Les propos insultants d'Éric Zemmour lancés à Absatoussi, ça vous ne pouviez pas laisser passer?
J'étais assez content de parler du sujet sans prononcer son nom, justement. Et après, je me suis fait engueuler par des copains, notamment Tonino Benacquista, qui m'a dit « Salaud, t'aurais pu me citer, moi
». Vous auriez pu faire une deuxième chronique.
Ouais.
J'ai des doutes, vous a valu cette année le Molière de meilleur comédien. Ça fait plaisir, la reconnaissance de la profession, ou ce qui compte, c'est d'abord la fidélité du public?
Moi, ça fait plaisir. Je trouve que tout est bon à prendre. Et puisque j'étais venu en personne dans le théâtre pour voir si j'allais le recevoir.
Tant qu'à faire, autant ne pas repartir les mains vides.
Il y a un petit moment, j'avais déjà été nommé et à chaque fois, il y avait aussi le soulagement de pas être obligé de monter sur scène et d'aller dire merci, parce que c'est un peu impressionnant. Mais quand même, j'étais très content. Oui. Bah oui, ça fait plaisir.
Ah, pourquoi tu ramènes jamais les filles?
Je ramène des garçons.
C'est pas
pareil. Ouais, des garçons.
C'est pas les mêmes jeux, hein.
Ça dépend.
Tu vas pas jouer au foot avec une fille?
Non, mais c'est pas les mêmes jeux.
C'est pas pareil.
Il y a d'autres œufs.
Ouais.
Hein?
Il y a d'autres œufs.
D'autres œufs.
Bon, je crois que vous comprenez pas très bien. Je vais donc faire mon coming out.
Ah bon? Ah d'accord, oui.
Je suis homosexuel.
Ah bon, d'accord, oui. Qui ça?
Moi, j'aime les garçons. Comme beaucoup de gens dans l'histoire.
François Morel, est-ce que Les Déchiens, cette série culte des années 90 sur Canal+, a changé votre vie?
Ah bah oui, un peu, oui, quand même. Bah oui, parce que ça a été 10 ans de ma vie. Finalement, pour moi, ces années-là sont plus encore associées au théâtre, parce qu'en même temps qu'il y avait ces pastilles sur Canal+, on était tout le temps en tournée. On allait loin, d'ailleurs, parce que je crois que quand ça a commencé à être diffusé sur Canal+, on était en Amérique du Sud, et puis on est allé dans plein de pays, c'était très agréable. Et puis ce sont des copains pour la vie, enfin, comme disent les d'autres. Oui, Olivier Broche et Yolande Moreau, qu'on vient d'entendre, ce sont vraiment des amis.
Merci beaucoup François Morel d'avoir été notre invité. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous le pouvez, courez voir J'ai des doutes à la Scala de Paris. Le spectacle se joue jusqu'au 5 janvier. Merci à Ludivine Amado qui a réalisé cette émission et à Marion Lestel qui m'a aidé à la préparer. À bientôt et portez-vous bien.
Merci.